bonsoir à vous, voilà Supersonic, oui oui. Parlez, parlez, parlons, parlons, il en restera toujours quelque chose, et sans doute des choses qui vous échapperont, qui nous échapperont, rouge, évidemment. Oreilles rouges, chauffées graves par l'époque et les bruits qu'on n'aurait jamais voulu entendre par certaines voix d'après, alors que deux silences auraient pu se succéder sans qu'on y trouve à redire. Deux silences, pas les mêmes. Silence de la stupéfaction, de l'incrédulité, et puis silence du recueillement. Mais faut que ça cause, c'est humain, on en a besoin, le bourdonnement, c'est la présence. Et puis, allons-y, c'est vrai, parlons, parlons, il en restera toujours quelque chose, et puis ça réconforte. Tchatch, commentaire, drone vocal, mauvaise chorale, ça nous aide, et ça nous fait du bien, tant que ça nous fait un peu moins mal. Apporte tes machines, camarades, ici ce soir, et fais tourner. Salut les androïdes, et gros bisous. Des voix lancées dans l'air, voilà de quoi il va être question ce soir. Des voix lancées dans l'air par nos caisses de résonance enregistreuses. Tout à l'heure, avec la poète japonaise Ryoko Sekiguchi, qui publie La Voix Sombre chez POL, un court recueil autour de la voix enregistrée, celle qui bouscule la temporalité, la notion de présent et celle de l'absence aussi. Voilà de quoi nourrir la poésie, donc, de Ryoko Sekiguchi. On s'en rendra compte tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Et tout de suite, on est déjà dans le sujet, mais par un autre versant, grâce au chercheur américain Jonathan Stern, qui publie Une histoire de la modernité sonore aux éditions La Découverte. Et bonsoir Jonathan Stern.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aux côtés de Xavier Combe, qui va traduire vos propos, et puis de votre éditeur, Stéphane Rode. Bonsoir, Stéphane Rode.
Bonsoir.
Vous êtes directeur éditorial de la Philharmonie de Paris, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, tout à fait.
Et vous dirigez la collection La Rue Musicale, donc, qui coédite avec La Découverte cette histoire de la modernité sonore, une histoire de la modernité sonore. C'est une somme où le son apparaît comme un objet construit, absolument pas comme une donnée naturelle. Envisager le son, en parler, en faire le centre d'une invention, en faire un objet industriel, un objet à traiter, à manipuler, à améliorer le cas échéant, tout ça, ça ne tombe pas du ciel. C'est un récit, donc, qui a son histoire, et c'est ça que vous racontez, Jonathan Stern, et que vous analysez, donc, dans cette somme, une histoire de la modernité sonore. Et d'une certaine manière, vous contribuez vous-même à cette histoire de la modernité sonore en amenant le son dans le champ des sciences humaines. Est-ce qu'on pourrait dire que le livre lui-même, l'objet livre, est en quelque sorte un chapitre supplémentaire, peut-être le premier même, de cette histoire que vous racontez?
Yeah, I think so, because in the history, in the history I give,
parce que dans l'histoire telle que je la raconte, le son est construit comme un objet dans différents champs et à différentes époques. On pourrait dire que le rival du et tout arrive de manière récurrente dans ce qu'on appelle en Amérique l'âge d'or de la radio. Donc on étudie la radio, la voix, la réflexion sur le son en tant que problème humain critique. À mesure que la radio sort de la conscience publique comme métaphore ou figure de la façon dominante de communiquer, eh bien, l'intérêt s'estompe. Puis vient la deuxième époque, les années 60. À ce moment-là, l'enregistrement sur bande magnétique devient plus disponible, et puis vous avez The World Soundscape Project et les écologistes acoustiques qui réfléchissent aussi au son de manière systématique. Et puis également l'école de Toronto avec Marshall McLuhan, parmi d'autres. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Et dans les années 90, lorsque je faisais mes recherches pour ce livre, on parlait beaucoup de modernité et de vision, en partie en raison de la génération des intellectuels français qui sont exprimés dans les années 60 et 70. Et moi, je me suis posé la question du son. Qu'est-il advenu du son au cours des 200 dernières années? Je me suis tourné vers les écologistes acoustiques, je me suis tourné vers l'école de Toronto, vers d'autres philosophes, penseurs, et j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches moi-même. Mais je ne suis pas seul. Il y avait beaucoup d'autres qui ont fait les mêmes découvertes en même temps. Donc, moi, je fais partie d'un mouvement historique, tout comme les sujets que j'étudie.
Voilà le chercheur qui retourne évidemment son regard sur lui-même, évidemment, puisqu'il fait partie du paysage, en l'occurrence le paysage sonore. Alors, c'est un livre qui connaît quelques illustrations. Il y a de l'image, il y a du visuel, un petit peu, pour soutenir le propos sur le son. Et une des premières images qui représente un objet qui vous sert en quelque sorte de point de départ, c'est une invention d'Alexandre Graham Bell et de Clarence Blake de 1874, qui s'appelle le phonotographe à oreille. Et en l'occurrence, c'est un objet dont vous dites, voilà, sa grande nouveauté est d'inverser. Alors, en vrai, c'est un livre qui renverse beaucoup de choses, hein, où votre écriture est une forme de miroir, hein, Jonathan Stern. Vous renversez certaines évidences. En l'occurrence, là, le renversement que vous mettez en avant, c'est que cet objet, qui était un objet donc sonore, un objet de réplication du son, n'était pas un objet qui imitait la bouche, mais qui imitait l'oreille. Et pour vous, ça, c'est un point de départ.
Oui, c'est un point de départ parmi d'autres, mais ce que vous dites est vrai. Si l'on regarde l'histoire des tentatives de reproduction du son au Moyen-Âge, au début de la période moderne, eh bien on essaye de reproduire le mécanisme de la production du son. Si on veut écouter un violon, eh bien on construit un automate, donc un robot du 18e siècle qui joue du violon. Vous voulez entendre du chant, eh bien vous baptisez une maison avec une sorte de soufflet, le soufflet qu'on utilise dans l'âtre, et puis une espèce d'ouverture que l'on peut ouvrir et fermer. Et puis, au fil d'une cinquantaine d'années, les chercheurs commencent à traiter le son du point de vue des effets plutôt que du point de vue des causes. Il y a Florence Cloney, avec les figures de Cloney, où le son est redisposé sur un plateau. Il y a des physiciens et des physiologistes qui commencent à enregistrer le son de manière graphique, et le phonotographe ressort de cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le phonotographe à oreille en particulier, parce qu'il a une oreille humaine qui est intégrée. Difficile à décrire à la radio, mais c'est une image assez frappante, parce que dans cette image, on peut voir une oreille humaine que l'on voit de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Donc on ne voit pas du tout la chair et les cartilages apparemment mal disposés que l'on voit à l'extérieur du corps humain, mais au contraire on voit de petits osselets et la membrane du tympan. Bell a construit cet appareil parce qu'il utilisait le phonotographe de Scott. Donc c'était un Français qui a bâti cela en 1857. C'est tout à fait similaire au premier phonographe, donc une espèce de corne dans laquelle on parle, la corne vibre, il y a un petit diaphragme, donc une espèce de petit instrument qui fait un petit graphique en résonance, et l'idée c'était d'enregistrer la parole. Bell utilisait cet appareil pour enseigner aux enfants des sourds comme s'ils pouvaient parler comme ils entendent. Donc, avec l'élocution, lui, il parle dans la corne, l'appareil fait vibrer le diaphragme, ça a une représentation graphique, et puis les enfants pouvaient moduler leur voix jusqu'à les petits graphiques se rassemblaient. Mais ce n'était pas suffisamment sensible. Donc, il a parlé à Clarence Blake, l'un des fondateurs de l'autologie américaine. Et il dit à Blake, ah, si je pouvais seulement avoir un peu plus de sensibilité au niveau du diaphragme, comme dans l'oreille humaine. Et Blake dit, mais moi, je peux te fournir une oreille, parce qu'évidemment, il avait des cadavres sous la main. Et Blake a fourni l'oreille humaine, il l'a retirée du crâne avec une scie, c'était pas facile à faire en 1874, et ensemble, ils ont bâti cette machine. Ça n'a pas vraiment aidé Bell à enseigner la parole aux enfants sourds, mais ça lui a donné l'idée du téléphone. Petit diaphragme sensible qui pourrait maîtriser le son de manière plus sophistiquée qu'une membrane, qu'un diaphragme moins plastique. Donc, chez Bell, on peut dire que plutôt que d'enseigner aux enfants la délégation de l'écoute à un instrument et d'éradiquer les vestiges de la surdité, là, il permet de transmettre l'écoute par l'intermédiaire d'un appareil construit, mais aussi de manière artificielle, mais aussi avec l'oreille humaine.
Jonathan Stern, vous nous rappelez dans ces histoires, ces récits, parce que votre histoire de la modernité sonore, vous la construisez à travers de nombreux récits. En l'occurrence, par exemple, qu'Alexandre Graham Bell, qui reste comme l'inventeur du téléphone, non seulement a fait des choses avant d'inventer le téléphone, mais était orthophoniste. Et ce souci, non seulement évidemment de la rigueur historique, mais aussi ce souci de la mise en contexte, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous dites dans votre livre et concernant votre méthode, les technologies ne sont pas une cause historique, mais une conséquence. Encore une fois, c'est ce retournement qui est assez fascinant, c'est qu'il y a le refus de prendre les choses comme naturelles. Il faut un contexte multiple. Il peut être économique, il peut être industriel, il peut être social. Et si Bell et Blake, en l'occurrence, ont inventé à ce moment-là cet outil, ce phonographe à oreille, eh bien, ce n'est pas parce que simplement ils étaient inventeurs, c'est que l'époque appelé à ça, est-ce qu'on peut dire ça?
Yeah, that's actually one of the main arguments of the
book. Oui, du reste, c'est l'un des grands arguments que j'avance. Il faut traiter les technologies comme des artefacts culturels. J'ai écrit ce livre à la fin des années 90, au début de 2000, lorsque tout le monde était un petit peu épris d'Internet. On l'est encore, mais on l'était à l'époque peut-être davantage. Donc tous les jours, je lisais le journal et je disais, cette technologie-ci va révolutionner le monde. Puis, moi, je me suis penché sur les histoires de l'enregistrement sonore. Et souvent, il était question de Edison, éventuellement Bell, ou d'autres. Il était question du génie de ces hommes et des appareils qu'ils ont créés. Et dans ces récits, on racontait l'histoire des technologies, mais pour moi, ce n'était pas du tout satisfaisant, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela n'explique pas d'où vient la technologie, parce que bien sûr, les ingénieurs sont des êtres humains. Ils font partie d'une culture. Ils ont des idées quant au son. Ils ont des idées quant à l'écoute et ils ont des séries de pratiques. Lorsqu'on dit que le phonographe ou la radio a changé la façon dont les gens écoutent, eh bien, les techniques d'écoute ne sont pas tombées du ciel. Ça fait partie d'une histoire. Il y a une histoire pratique. Il y a une histoire philosophique ou pédagogique. Et c'est ça qui a commencé à m'intéresser. Lorsque l'on parle de mécanisme, eh bien, le phonographe, c'est un parfait exemple. En effet, le premier phonographe d'Edison, c'est un rouleau de papier de toilette, de papier aluminium et une punaise avec un entonnoir. Cette technologie est restée disponible 500 ans avant l'invention du phonographe d'Edison. Il y a quelqu'un au Moyen-Âge qui aurait pu construire cet instrument. Ça n'a jamais été fait. Mais ce n'est pas une question d'invention qui a lieu lorsque c'est possible, mais l'invention qui a lieu étant donné le contexte pour des raisons précises, contextuelles, comme vous l'avez dit. Mais les historiens et les sociologues de la science, les épistémologues, parlent de découvertes simultanées. C'est vrai pour le téléphone et le phonographe. Bell et son rival Elisha Gray, Charles Crowe, le français, ont déposé des plans pour des instruments d'enregistrement sonore ici à Paris, à la même époque où Edison a fait bâtir son appareil par ses assistants. Donc, dans des lieux différents, étant donné que ces gens-là avaient un engagement envers les mêmes problématiques, trouvent des solutions similaires. Et encore une fois, on peut soumettre mon livre, au même processus historique. À mesure que j'écrivais, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres chercheurs qui, en parallèle, disaient qu'il fallait traiter le son comme quelque chose qui a sa propre histoire, qui doit être comprise dans un contexte historique, culturel, et ainsi de suite, avec des relations de pouvoir, de différence, mais aussi de différentes possibilités qui s'ouvrent alors.
Ladies and gentlemen, since the remarkable experiments of Morse in 1844 and the unsuccessful efforts of Field in 1858, there have come with incredible rapidity one electrical art after another. It is still too early to stand outside these events and pronounce final judgments on their lasting value. But we may surely entertain the belief that the last half of the 19th century was as distinct in its electrical inventions and the results.
Alors je ne sais pas, Jonathan Stern, si vous avez reconnu cette voix.
Non.
C'est Thomas Edison.
Okay.
C'est Thomas Edison dont vous avez parlé là plusieurs fois, et vous dites qu'en fait vous avez finalement moins de tendresse à l'égard de Thomas Edison, quand même grand inventeur, moins de tendresse que à l'égard d'autres inventeurs peut-être moins connus ou moins mis en avant par l'histoire. Il y a Graham Bell, mais il y en a d'autres qui sont cités dans votre histoire de la modernité sonore. Pourquoi moins de tendresse?
Je dirais pas que je n'ai pas de tendresse pour Edison. Je dirais que Edison a été mis en lumière dans l'histoire de la reproduction sonore avant que je me mette à pencher sur lui. Il y a Berliner. Berliner, c'est mon préféré. Il était inventeur, Berliner. Il était sociologue, féministe, croyait à la pasteurisation. Il n'a pas pu inventer d'hélicoptère, mais il a essayé. Donc, Berliner, c'est mon préféré en tant qu'être humain. Hein. Mais je n'ai rien contre Edison. Hein. Mais je me dis que l'histoire racontée par les autres personnes avec des points de vue différents nous permettent de décentrer ce récit du héros inventeur obscur. Quand je parle de Bell ou de Berliner, dans cette histoire des inventeurs héros, il y a des échecs. Bell, c'est un homme d'affaires terrible, et après le téléphone, il essaye et réessaye d'inventer des choses, et puis il ne va pas bien loin. Il améliore le phonographe d'Edison, mais bien sûr, Edison, à l'époque, reprend ses innovations et va encore plus loin. Berliner, lui, perd les droits de sa propre invention et il part pour le Canada pendant un moment pour s'y établir. Donc ces gens-là, je les aime bien parce que ce ne sont pas des gens sur lesquels on peut plaquer le récit de l'inventeur héros. Et puis je voulais raconter une histoire en pluriel. Donc il y a ces gens-là, mais mon livre est plein de chanteurs qui parlent devant des micros de radio, un micro comme celui devant lequel je suis, et je ne chante pas pour votre grand bonheur. Des anthropologues, des journalistes, des commentateurs, des commerciaux, des gens comme ça. Et même des sujets coloniaux qui ne parlent pas, mais dont on essaye de les reproduire. Donc j'essaye de raconter une histoire, non pas une histoire, bien que ce soit le titre en français, mais de nombreuses histoires, une histoire plurielle, la possibilité de la reproduction sonore, ce que cela recouvre dans des sphères sociales et pour différentes sortes de personnes à des époques différentes, bien avant l'avènement du téléphone ou du phonographe, jusqu'à une période qui se termine vers 1930, à mesure que la radio devient particulièrement dominante.
Alors je vais vous me tourner, Jonathan Stern, vers votre éditeur, donc vers Stéphane Roth, parce que ce qu'on entend depuis le début de cette conversation avec Jonathan Stern, c'est aussi la définition de quelque chose qui existe peu, pour le moment en tout cas sous un seul label, qui s'appelle les Sound Studies. C'est ça, c'est comme ça les Sound Studies, c'est un champ des sciences sociales multiples qui fait du son un objet qu'on peut saisir en sciences humaines par de multiples coins, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Lorsque Laurent Bell m'a demandé d'imaginer un projet éditorial pour la Philharmonie, la question s'est posée à moi de la façon dont on concevait l'écoute aujourd'hui. Quels avaient été les travaux ces 10, 20, 30 dernières années qui avaient permis de conceptualiser l'écoute et quels étaient les apports majeurs. Donc j'ai fait un survol, disons, des travaux internationaux et les sound studies en particulier ont attiré mon attention, non pas les sound studies en eux-mêmes, mais quelque chose d'un peu plus large, qu'on appelle les études culturelles dans le mm-hmm. monde anglo-américain, les cultural studies.
Voilà.
Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai aussi pensé à l'histoire de la vie intellectuelle dans le second XXe siècle, au transfert de ce qu'on appelle aujourd'hui la French Theory, mais la philosophie française des années 50 à 70, vers le monde anglo-américain, et au constat suivant qu'il y a un retour depuis les années 80, depuis les années 90 et beaucoup depuis les années 2000 avec de la réception éditoriale très intéressante, notamment par de petits éditeurs militants. Je pense aux Prairies Ordinaires, je pense à Amsterdam. Et ce retour, j'ai pensé nécessaire de devoir l'accompagner au sein d'un nouveau projet qui est celui de la Philharmonie de Paris.
L'accompagner et lui donner, ou en tout cas publier en français, quelque chose qui a un socle en la matière. Une histoire de la modernité sonore, il faut le dire, il faut le rappeler. Le livre donc date du début des années 2000, je crois qu'il était publié en 2003 aux États-Unis. Il est traduit aujourd'hui grâce à vous, mais c'est un socle, c'est un point de départ aussi pour ce qui ne s'appelle pas encore en France les Sound Studies.
Tout à fait, mais on peut même considérer que les travaux de Jonathan qui l'ont amené à rédiger ce livre ont été réalisés au milieu des années 90. Ouais. Le livre lui-même existait déjà sous forme écrite dès les années 2001-2002. Et évidemment, c'est un socle fondamental. Il en existe d'autres. Mm-hmm. Je pense aux travaux de Peter Zendi, par exemple, en France, son histoire de l'écoute. Et il en existe d'autres, comme l'a dit au début de l'entretien Jonathan Stern, dans le monde anglo-américain, qui nécessite absolument d'être reçu en français, mais aussi à l'international et dans toutes les disciplines. Pour une raison assez précise, il me semble qu'il y a aujourd'hui une sorte de mouvement épistémologique, de renversement épistémologique, qui vient replacer le son, l'écoute, à un niveau de respectabilité intellectuelle équivalent à celui du visuel ou du littéraire.
Il rattrape le visuel, le son rattrape le visuel dans les recherches académiques et dans certaines publications, et grâce notamment à ce livre, Une histoire de la modernité sonore, dont on parle ce soir dans Supersonique.
Le voyageur, ouvrez-moi cette porte, vous offrez en pleurant. La vie est variable aussi bien que le rythme. Tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures. Et de tous tes regrets, de tous tes repentirs, te souviens-tu? Vagues poissons arqués, fleurs surmarines, une nuit c'était la mer et les fleuves qui répandaient. Je m'en souviens encore. Un soir, je descendis dans une auberge triste auprès de Luxembourg. Dans le fond de la salle, il s'envolait un Christ. Quelqu'un avait assuré, un autre un hérisson. J'en jouais au casque et toi, tu m'avais oublié. Te souviens-tu du long orphelinat des gares? Je traversâmes des villes qui tout le jour tournaient. Et vomissez la nuit, le soleil des journées. Ô matelots, aux femmes sombres, et vous, mes compagnons, souvenez-vous-en. Deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés. Deux matelots qui ne s'étaient jamais
parlés. Oui, c'est qui? C'est Guillaume Apollinaire, qui lit Le Voyageur en 1913.
Ô vous, chers compagnons, sonneries électriques des gares, sans des moissonneuses, traîneaux d'un boucher, régiment des rues sans nombre, cavalerie des ponts, nuit livide de l'alcool, les villes que j'ai vues vivaient comme des folles. Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages? Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres. J'écoutais cette nuit au déclin de l'été un oiseau langoureux et toujours irrité, et le bruit éternel d'un fleuve large et sombre. Mais tandis que mourant roulait vers l'estuaire, tous les regards de tous les yeux, les bords étaient déserts, herbus, silencieux, et la montagne à l'autoride était très claire. Alors, sans bruit, sans qu'on pût voir rien de vivant, contre le mont passèrent des ombres vivaces, le profil où soudain tournant leurs vagues passent, et tenant l'ombre de leur lance en avant, les ombres contre le mont perpendiculaire grandissaient ou parfois s'abaissaient brusquement, et ces ombres tardées pleuraient humainement en glissant pas à pas sur la montagne claire. Si donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies, te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu, c'était tu t'en souviens à la fin de l'été? Deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés, l'aîné portait au cou une chaîne de fer. Le plus jeune mettait ses cheveux blonds en face, ouvrez-moi cette porte qui vous frappe en pleurant. Ta vie est variable, si bien que le rythme.
Oui, on a cherché à l'inviter plusieurs fois, Guillaume Apollinaire, mais à chaque fois, il y a une bonne excuse pour ne pas venir. Alors, on écoute un enregistrement. Le Voyageur, donc, Guillaume Apollinaire, enregistré dans une pièce de la Sorbonne, le 24 décembre 1913. On entend souvent aussi le Pont Mirabeau, enregistré lors de la même séance. Jonathan Stern, dans ce livre dont on parle ce soir, dans la première partie de Supersonic, vous dites que les médias sont peut-être les médias imaginaires, je crois que vous le dites à un moment donné, précèdent les technologies, c'est pas l'inverse. Et en l'occurrence, il y a un désir projeté dans certaines techniques qui préexistent sans doute à ces techniques-là. Et un de ces désirs, c'est sinon l'immortalité, en tout cas l'existence en dehors du corps mortel. Et la voix, tout d'un coup, la voix enregistrée, permet ça. À l'instant, Apollinaire était en quelque sorte avec nous autour de la table, et ça tombait bien, il restait une chaise.
La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'enregistrement sonore est arrivé à un moment qui n'est pas le nôtre. Lorsqu'on annonçait la possibilité d'enregistrement sonore, les commentateurs anglophones ont remarqué la possibilité d'entendre la voix des morts. Aujourd'hui, les morts n'arrêtent pas de nous parler. On les entend à tous les coins de rue. Et on prend ça pour quelque chose de banal. Mais c'est une idée fantastique tout de même. Une idée formidable à l'époque victorienne pour deux raisons au moins. Tout d'abord, comme dit mon collègue John Peters, le sexe et la mort ont changé de rôle, échangé de rôle. À la fin du 18e, le sexe est tabou, c'est le cas partout, c'est pourquoi les gens s'habillent de telle sorte qu'on ne voit pas du tout le corps, mais la mort est omniprésente. C'est une occurrence quotidienne. Et là, il n'y a pas de tabou sur la mort. Les membres de famille habillent les cadavres de leurs parents. La mort a lieu à la maison. La mort n'est pas professionnalisée, prise par des professionnels, comme c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, la mort, bien qu'omniprésente, est cachée. C'est impossible d'en parler. Et la mort n'a pas lieu à la maison. Donc, évidemment, l'enregistrement sonore des morts, c'est quelque chose qui vient à l'esprit. Sinon, à la fin du 18e siècle, il y avait cette technique de préservation. Les premières conserves, l'embaumement des habits plus résistants au temps et même des pratiques de préservation des morts qui arrivaient à cette époque-là. Donc la préservation, la conservation de la voix des morts, c'était quelque chose de nouveau, un petit peu comme si on se disait « Ah tiens, t'as vu, t'as un nouveau site internet qui vient de sortir aujourd'hui. » Bon, donc il s'agit de savoir ce qui se passe dans un moment. Mais encore une fois, ce moment auquel je fais référence n'est pas le nôtre. Par ailleurs, la préservation, c'est un programme pour l'enregistrement sonore. Lorsque l'on parle de lectures de poésie qui ont plus de 100 ans, c'est le cas de Apollinaire, il y a une raison de leur présence aujourd'hui. Et ce n'est pas dû aux médias. Si on prend un phonographe de 1877 ou 78, encore une fois, c'est un papier de aluminium sur un bout de carton. Et donc, pour entendre la voix des morts sur un premier phonographe, il faudrait soit enregistrer quelqu'un sur son lit de mort et puis faire retourner ça plusieurs fois avant que le disque ne s'use, puis enregistrer la personne, puis la tuer. Pas une très bonne idée, vous me direz. Donc, ainsi, c'est devenu programmatique pour l'enregistrement sonore. Et il y a des chercheurs comme Bell, puis Edison, qui explorent sur d'autres supports. Et là, par support, j'entends la toile, la cire ou d'autres supports et des supports d'enregistrement. En parallèle, il y a des anthropologues, des musicologues et il y a des collectionneurs qui disent, nous devons créer un moyen de stocker les enregistrements sonores, de créer des archives sonores. Et cela, c'est également lié à la mort. Nous devons enregistrer quelque chose pendant que ça existe. La voix des langues mortes en cours de disparition. Il y avait des langues qui sont mortes, étant donné les expéditions coloniales soutenues par les anthropologues qui voulaient enregistrer les langues qui allaient devenir mortes. Vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc, un peu comme l'histoire des Amérindiens, on voulait éradiquer la culture, mais on voulait en même temps la préserver. Et ça, c'est une génération. Puis il y a une génération qui dit « Ah, on est en train de perdre cette culture, il faut absolument l'enregistrer si ça n'avait pas été fait. » Donc, lorsque l'on parle de la disponibilité des enregistrements sonores aujourd'hui, pour nous, on parle d'institutions, de jeux de pouvoir et de pratiques qui se sont opérées de nombreuses façons. Et donc, c'est une opportunité et un problème aujourd'hui. Il y a plus de sons disponibles, de sons historiques, j'entends, disponibles aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut étudier la poésie sous forme d'art sonore. On peut écouter les œuvres sonores d'artistes du XXe siècle. L'archive de musique enregistrée devient une source littérale et une source d'inspiration pour les musiciens de notre époque. Tout cela existe aujourd'hui. En parallèle, il y a des gens qui s'inquiètent du fait qu'il y a de plus en plus d'enregistrements disponibles sur Internet. Il y a plus d'MP3 que d'autres types d'enregistrements. Et face à cette pléthore, il y a une angoisse chez les archivistes, chez les bibliothécaires et chez les intellectuels quant à la perte éventuelle de quoi que ce soit. Moi, cette angoisse, je ne la partage pas. Moi, je me dis qu'il y aura plein de choses qui vont perdurer, mais pas tout. Et ce n'est pas que ce qu'il y a de meilleur survivra, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je dirais que chaque instant de l'histoire n'est que partiellement disponible pour les gens de l'avenir. Donc, la perte, c'est une précondition pour l'avenir et l'historiographie. Il faut confronter le présent, et si évidemment on ne le fait pas, on ne pourra pas le raconter à l'avenir. Donc, certains enregistrements seront perdus, certaines pratiques seront oubliées. Moi, ça me va très bien, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la mort. Et à mon avis, les intellectuels laïcs peuvent se rendre compte de ça et nous devons le refléter dans notre pensée.
Oui, c'est ça. Après avoir envisagé justement ce doublement, cette mémoire sonore, ce doublement du monde par le son et par l'archive, on se rend compte qu'évidemment, ce qui compte, c'est ce qui ne l'est pas, ce qui forcément ne le sera pas, n'est pas enregistré. Vous l'envisagez. Je crois que vous avez un peu dépassé le propos de ce livre à l'instant même, puisque ça me fait penser à des propos qui lui sont ultérieurs, notamment sur les modes d'écoute aujourd'hui qui vous intéresse et notamment sur les modes d'écoute qui sont, quelle que soit la plus grande fidélité, le propos de la fidélité, de la haute fidélité, ça fait partie du livre, mais quelle que soit cette qualité du son aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui là, ce qui compte c'est que l'écoute est parasitée, l'écoute est bousculée, l'écoute est forcément incomplète, et j'ai l'impression que c'est cette incomplétude dont vous venez de parler en parlant de la mémoire qui vous intéresse beaucoup aujourd'hui.
Permettez-moi dire plusieurs choses. Tout d'abord, nous savons que la haute définition et la haute fidélité, ce n'est pas la même chose pour les intellectuels, j'entends. Et si l'on pousse les ingénieurs, dans leur retranchement, ils diront cela. Mais on a besoin de ces définitions pour évoquer ce qu'est la fidélité. Par fidélité, on entend une relation authentique entre la copie et l'original. Mais, à l'évidence, l'original, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la reproduction sonore. C'est un de mes arguments dans mon livre. Et je dis ceci. La reproduction sonore produit l'original autant que la copie. Je vais vous donner des exemple concret. Si vous passez un appel téléphonique, le téléphone ne capture pas votre parole. Vous parlez dans le téléphone pour que quelqu'un reçoive ça à l'autre bout. Lorsque nous enregistrons un programme de radio, eh bien nous enregistrons pour être entendus à la radio, non pas que quelqu'un nous écoute ailleurs, non. Il y a des pratiques telles que l'audio-surveillance, il y a des pratiques qui portent davantage sur l'écoute liée à la capture d'un événement en direct. Voilà, ce sont des pratiques qui ne s'intéressent pas à la définition, parce que l'intérêt est ailleurs. On s'intéresse à l'intelligibilité, le contenu, à d'autres fins. Donc, la fidélité sonore, c'est une histoire que l'on raconte sur les technologies pour créer une relation d'équivalence ou de comparaison entre ce qui est enregistré et ce qui est en direct. Et c'est un problème pour moi, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que nous vivons dans une société à grande échelle. Nous ne pouvons pas exister uniquement avec des relations en face à face. Et la critique des médias aujourd'hui, dans le livre de Sharon Turkle, qui dit que nous devons nous détacher des réseaux sociaux et avoir des relations plus authentiques avec nous. Moi, je suis pour les relations authentiques, mais dire qu'il ne faut pas de support, c'est comme si les architectes disaient il ne faut pas d'immeubles parce qu'on n'aime pas la façon dont on bâtit les immeubles aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de problèmes dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Les concentrations de la propriété, les arts ne sont plus financés, on ne soutient pas les artistes, on réduit le soutien à la culture, on parle uniquement de contenu, ce qui est ridicule, mais ça ne signifie pas qu'il faut se débarrasser des réseaux sociaux. Il faut les améliorer, les transformer, les faire évoluer selon nos besoins. Ça, c'est le premier problème qui me préoccupe. Deuxième problème, on ne tient pas compte du fait qu'il fallait convaincre les gens à former une relation d'équivalence entre la reproduction sonore et la relation en face à face. Donc, au début du XXe siècle, il y a des pubs qui vous disent « Parlez dans le téléphone comme si vous étiez en face à face ». On voit des publicités d'enregistrement sonore, on voit une image d'un disque, Caruso, et la publicité dit « Le disque et Caruso, c'est pareil ». Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que ce n'est pas véritablement la même chose dans l'esprit des auditeurs. Et si un anthropologue qui ne connaît rien à la production sonore, rien à la musique, assiste à un concert et puis ensuite écoute un enregistrement sonore et dit que c'est la même chose, il y a une équivalence de relation, eh bien, ce serait étrange quand même, hein, ce serait arbitraire si un anthropologue disait ça. Et ce serait pas vraiment une conséquence de la technologie, ce serait trop lié à la construction de l'esprit. Donc, il y a quelque chose que l'on considère comme étant naturel, mais c'est dans un contexte historique. Et puis, évidemment, il y a des implications politiques. Pour améliorer les réseaux sociaux aujourd'hui, tout d'abord, nous devons considérer qu'il s'agit de supports, de technologies qui nous permettent de vivre. Et il faut avoir cette réflexion comme nous avons celle que nous avons sur l'architecture. C'est ainsi que nous bâtissons l'infrastructure qui rend la vie ensemble en société possible.
Alors, je vois que Stéphane Roth prenez des notes pendant que Jonathan Stern prenait la parole. Vous l'accompagnez depuis quelques jours, parce que Jonathan Stern est à Paris pendant quelques jours, et vous continuez à prendre des notes à l'écoute de ses prises de parole.
Moi, je pensais à quelque chose pendant que tu parlais, Jonathan, et j'en profite pour annoncer la prochaine publication, le prochain livre de Jonathan, qui sera un livre consacré au MP3. Mm-hmm. Tu vas parler un peu du MP3. Et dans ce livre, qui est paru en 2013 aux États-Unis, qui s'appelle MP3, The Meaning of a Format, mm-hmm. donc le MP3, le sens du format, il propose une généalogie. Et il dit tout simplement, le MP3 existe depuis 20 ans, mais son histoire a plus de 100 ans. C'est une histoire absolument géniale qu'il nous raconte en lui ajoutant une autre dimension qui est celle de la subjectivité. En quoi une subjectivité contemporaine est inscrite dans ce format? Et il dit des choses très simples. Le dilemme sur le MP3 souvent nous conduit à l'opposer à la haute définition. Mm-hmm. Une bonne écoute avec une haute définition, une écoute beaucoup plus faible avec le MP3. Lui dit que les pratiques d'écoute aujourd'hui n'ont pas nécessairement besoin de cette haute définition. Où écoute-t-on avec notre iPod? Dans le train, dans l'avion, en faisant la cuisine, le ménage, etc. A-t-on besoin d'une haute définition à ce moment-là? Mm-hmm. Non, pas forcément.
Voilà la question du son, de son histoire dans la modernité, l'histoire de la modernité sonore et les histoires qui composent cette histoire-là. On trouve ça dans votre livre de Jonathan Stern, Une histoire de la modernité sonore, qui est paru à la Découverte collection La Rue Musicale. On a eu qu'un tout petit aperçu dans notre conversation de la richesse de vos recherches. J'invite chacun à trouver ce livre-là pour se plonger dans vos recherches et les suivants. On a compris que ce serait suivi d'autres livres. Merci beaucoup d'être passé par Supersonic et merci Stéphane Roth.
Merci.
France Culture, Supersonic. de Thomas Baumgartner.
I'm not interested.
Deuxième partie de Supersonic. La voix trouble la temporalité. La voix trouble la temporalité parce qu'elle est condamnée à rester au présent pour toujours. La voix réelle, bien sûr, mais aussi la voix enregistrée qui, chaque fois qu'elle surgit, se produit inévitablement au présent. Il ne saurait en être autrement. Nous vivons au présent, nous ne pouvons pas réitérer le présent qui n'est plus, contrairement à la voix enregistrée. Ou plutôt, nous ne pouvons pas posséder ce présent qui nous est à chaque instant dérobé. Nous écoutons alors cette voix qui vit dans une autre temporalité. Dans le même monde, deux temporalités se croisent et nous sommes nous-mêmes, à notre tour, troublés. Vous allez voir, on ne s'éloigne pas tant que ça du propos de Jonathan Stern, c'est une autre face de la médaille. On part à la rencontre de Ryoko Sekiguchi, poète et traductrice japonaise installée à Paris depuis 17 ans. Depuis 12 ans, elle écrit en français et le dernier livre en date s'intitule « La voix sombre » paru chez POL il y a quelques jours. Vous venez d'entendre un extrait. Des notes sur la voix disparue. On comprend que c'est un livre de deuil, mais deuil en douceur, transformé en fascination pour la voix, précisément, la voix enregistrée. Grande auditrice, amoureuse de la voix, Ryoko Sekiguchi partage avec nous cette fascination.
Ce qui m'intéressait pour écrire ce livre, c'était la voix fantomatique. Et notamment, c'est aussi un livre qui est l'hommage à la radio. Donc la voix, c'est une média, je pense... Fantomatique par excellence. Bien sûr, on parle souvent du cinéma comme support fantomatique, mais pour moi, en tout cas, personnellement, c'est la radio qui est à la fois fantomatique, mais qui, qu'elle fait apparaître aussi une absence au présent.
Ça, c'est au cœur du livre, effectivement. Et le point de départ, j'ai l'impression, ce qui revient d'ailleurs plusieurs fois, c'est des séries de saisissements, en fait, de chocs, de moments où c'est précisément cette question-là de l'absence et en même temps cette absence au présent vous saisit vous-même, en fait. C'est un livre qui est basé sur votre propre écoute, sur votre propre expérience. C'est on ne peut plus personnel, ce livre-là.
C'est vrai. Pendant longtemps, moi, je m'interdisais, disons, de décrire sur ce qui est personnel. D'ailleurs, je pense que pendant que je décrivais de la poésie, il n'y avait rien de ce qui pouvait supposer qui venait de ma propre vie. Je pense que le basculement vient du fait que j'ai écrit le livre « Ce n'est pas un hasard » suite à Triple Catastrophe 2011. C'est à ce moment-là que j'ai osé pour la première fois mettre le sujet « jus » dans la phrase. Et puis, ce thème de la voix me hantait depuis des années. Et j'ai bien sûr lu plusieurs livres pendant ce temps-là. J'ai écouté toujours la radio. Je laisse toujours la radio allumée quand je suis à la maison. Mais il m'a fallu des expériences. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il m'a fallu des expériences personnelles, des voix, disons, concrètes, qui ont existé, qui existent toujours, mais le corps n'existe plus, pour que je puisse écrire sur ce livre. En fait, le côté théorique ne me suffisait pas.
Mmh. Oui, on est vraiment dans quelque chose de sensible, et c'est cette expérience de la voix enregistrée, en particulier la voix filtrée par un moyen soit d'enregistrement, soit de transmission, qui réveille chez vous quelque chose de très sensible. Est-ce qu'on peut dire que vous ressentez une forme de magie de la voix enregistrée ?
Oui, oui. Et puis d'ailleurs, vous avez parlé de saisissement, mais je pense que ce n'est pas parce que je parle en fait dans une émission de la radio que je parle toujours de la radio, mais je pense que la radio, c'est une sorte de boîte de saisissement. C'est parce que ce n'est pas seulement mes expériences personnelles qui m'ont fait écrire ce livre, mais aussi J'ai plusieurs fois eu ce moment de, comme ça, de saisissement en écoutant une simple... Enfin, une simple émission, disons, d'apparence anodine. Je me souviens encore de la voix qui était vraiment très, très étrange d'un garçon qui a été soigné par Pasteur. Mm-hmm. Et en fait, la voix, c'était comme ça. Moi, je remercie Pasteur de m'avoir soigné et... presque machinal. Mmh. Et ça m'a, enfin, ça m'a surpris. Et après, je me suis rendu compte que peut-être ce garçon qui ne savait pas parler le français et qui parlait pas toi, mmh. et qui devait apprendre par cœur le français avant de répondre. Et par exemple, une simple phrase, une simple voix, une simple bout de voix nous fait réfléchir plein de choses. Mmh. Donc je pense que c'est... voilà.
Une simple voix nous fait réfléchir à plein de choses. Une voix venue d'un temps disparu et qui résonne dans notre présent et même dans notre sphère la plus intime, puisque c'est ça qu'on sent aussi à travers votre texte, dans La Voix sombre, c'est la totale proximité que vous avez avec ces voix-là et l'intimité que vous avez avec elles.
C'est vrai, parce que finalement, la radio est... a été toujours proche aussi de la téléphone, qui est un autre support quand même intime. Et d'ailleurs, dans les émissions de la radio, encore aujourd'hui, on écoute, enfin, les auditeurs appellent dans l'émission, et ce qui est assez étrange comme, comme habitude, parce que c'est là où il y a l'intimité personnelle et le sphère du public se mêlent. Et donc c'est aussi pour ça que qu'en écoutant à la radio, on est forcément dans le sphère de, à la fois de l'intimité et du public, qui est indissociable.
Alors vous parlez du téléphone, Rokose Kikuchi. Là, vous racontez aussi qu'un des... un des chocs personnels qui, j'ai l'impression, est à l'origine de ce livre-là, de La Voix sombre, c'est l'exil, votre exil, et le fait d'être néanmoins en lien avec le pays d'origine, avec le Japon, avec la famille, avec les proches qui sont restés là-bas. Et là, tout d'un coup, il y a une expérience qui est de... on est dans la question de la présence, toujours, présence et distance en même temps.
C'est vrai, parce que quand il y a des drames, soit la disparition de quelqu'un, ou bien soit comme lors de catastrophes, les annonces viennent toujours par la voix de quelqu'un. Parce que, bon, encore aujourd'hui, c'est le moyen le plus rapide. Donc, on apprend par le téléphone, par toujours la voix de quelqu'un, que quelqu'un d'autre est mort, ou bien quelqu'un d'autre a eu un accident. Et... je pense que c'est la définition par excellence de d'exil, c'est-à-dire que tout passe par la voix.
Ça sent moi. I'm so sorry. I'm so sorry.
Quand la disparition d'une voix est annoncée par une autre voix, celui qui est au bout du fil, l'exilé, ne voit pas le corps qui a emporté avec lui cette voix. La mort demeure abstraite comme celle d'un évaporé. Celui qui, pour tous les autres, est décédé restera pour lui seul un disparu. La voix de la personne vivante lui a été enlevée. C'est la notion même de la mort qui lui est désormais retirée. La condition d'être exilé ou privé de voir un être cher qui disparaît, c'est de traverser cette double privation. Ryoko Sekiguchi, la voix sombre. On l'a rencontrée dans un coin sans âme d'un quartier de Paris, sans âme, donc à l'opposé de son livre, qui paraît donc chez POL, La Voix et ses pouvoirs.
Je pense que c'est dans tout le membre de notre corps, le seul qui peut... comme ça, être transmis à distance et que qu'on peut entendre et que qu'on peut toucher, être touché. Puisque vous qui m'entendez maintenant, c'est ma voix qui, devenant une onde, touche votre tympan. Donc, c'est ma voix qui vous touche. Mmh. Donc, Enfin, c'est physique.
C'est une vibration. Enfin, c'est une vibration physique. L'air vibre en vrai.
Et aucun autre élément physique ne fait cet effet-là.
Vous dites que la voix, finalement, c'est cette voix enregistrée qui réapparaît, l'archive, par exemple, nous fait toucher du doigt un monde qui n'est ni le monde des vivants, ni le monde des morts, en fait. On est un peu entre les deux.
Oui.
Ce jeu, cette ambiguïté, cette manière de bousculer la temporalité, ça crée quoi chez vous? Ça crée un vertige? Ça crée quel type d'état? Parce qu'on a l'impression, en vous lisant, qu'évidemment, ça provoque des choses, ça provoque des émotions.
Je pense que ça nous révèle quelque chose sur notre existence, que peut-être on est que des voix. On flotte entre le vrai existence et la disparition complète, et qu'entre-temps, il y a la voix. Donc, à la fois, c'est un monde vraiment ambigu, mais peut-être c'est la zone où peut-être nous et les gens qui ont disparu, qui ne sont plus là, peuvent se rencontrer. Et c'est aussi pour ça qu'encore une fois, la radio, en fait, en écoutant, lorsque l'enregistrement est bien fait, on ne sait pas si c'est la voix de quelqu'un qui est vivant, encore vivant, ou bien c'est quelqu'un qui est déjà passé à l'au-delà. Il y a quelque chose qui est vraiment troublant dans la radio, puisque la télévision, on sait tout de suite, en regardant à premier instant, que si, enfin, à peu près, on peut dater l'image, alors que la radio, non.
Vous parlez d'usure à un moment donné, la question de l'usure. Mmh. Est-ce que votre livre est un livre sur l'effacement, à travers cette question de la voix, de l'enregistrement, de l'archive, rejouée au présent, constamment présente ou définitivement absente, ce jeu-là, est-ce que finalement votre livre n'est pas un livre sur l'effacement?
L'effacement est ce qui résiste à l'effacement, puisque c'est vrai que ces derniers temps, je travaille toujours autour de l'idée de l'archive. Et même quand j'écris des choses sur le goût, par exemple, sur la cuisine, je prends cet élément de goût comme une archive éphémère, non quantifiable. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire quelque chose qui s'échappe de l'archivage général. Et c'est vrai que la voix est un bon exemple, quelque chose qui est à la fois qui est très éphémère et qui n'a pas de corps, mais qui résiste bien et belle à l'effacement et qui est contradictoire.
À propos de goût, vous parlez, Ryoko Sekiguchi, dans votre livre, de... Alors, pas du goût, mais de l'odeur, qui était peut-être la première archive, le premier souvenir palpable, tangible des disparus. Vous parlez aussi des mèches de cheveux qui pouvaient, à certaines époques, être conservées pour se souvenir des morts. Et aujourd'hui, c'est la voix, alors.
Oui, je pense que l'odeur peut rester quand même toujours une trace qui est presque dérangeante. On oublie aujourd'hui comment ça pouvait être pour les gens, par exemple, du 19e siècle, avant l'invention de la photographie, ce qui est resté des disparus. Qu'est-ce qui est resté? C'est des draps, des lettres pour ceux qui pouvaient écrire, justement les mèches. Les mèches, c'est une histoire aussi très étrange, parce que jusqu'à très très récemment, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on entend souvent les gens offrir les mèches de cheveux à un membre de famille. Maintenant, ça a disparu complètement, ça paraît même... étrange d'offrir une mèche de cheveux à quelqu'un. Mais je pense que c'est étrange, c'est le visuel qui a tout pris, et l'odeur, les choses, disons, les membres du corps comme trace ont disparu. L'habitude d'offrir à quelqu'un ou bien de passer à quelqu'un. Mais la voix, je pense, reste.
si on décidait de vivre en permanence avec cette voix-ci précisément, de n'écouter qu'elle, de l'avoir toujours contre son tympan, est-ce qu'on parviendrait à oublier l'absence réelle du corps qui l'accompagnait ? La voix se mettrait-elle à vivre d'une vie propre, ou au moins cette absence et cette présence changeraient-elles de nature ? À force de l'écouter, elle ferait partie de mon corps, elle finirait par habiter mon corps à moi. Alors je pourrais oublier ma propre voix pour en recevoir et en incarner une autre, celle que j'entends à longueur de journée dans mes oreilles. La voix des vivants ne se mêle pas à celle des morts, bien qu'elle soit au présent les unes comme les autres. La voix des vivants ne se fait pas entendre de ceux qui sont partis, puisqu'ils n'ont plus d'oreilles. La voix existe seule, juste pour être émise, et rien d'autre. Ryoko Sekiguchi, La voix sombre, ça vient de paraître. Votre livre, La voix sombre, c'est un livre sur le compagnonnage, votre compagnonnage avec des voix au quotidien. Ça peut être la radio, ça peut être des enregistrements personnels, ça peut être le téléphone. Mais des voix humaines, des voix qui ont été incarnées, qui ont été celles de corps au moins à un moment donné. Et alors moi, je suis jamais allé au Japon, mais je sais qu'à Tokyo, il y a des voix partout, des voix de synthèse, des voix qui on nous parle, les objets nous parlent, dans la rue, un feu rouge nous parle. Et je me suis demandé si c'était pas en une sorte de miroir, c'est-à-dire d'un côté des voix maîtrisées, synthétiques, prévues, avec un rôle précis, et forcément sans corps, parce que synthétique. Et en réponse à ça, de l'autre côté, des voix impalpables, des voix compliquées à obtenir, des voix fragiles, mais qui sont autant de présence, de réelle présence.
Alors, je ne sais pas si ça fait la réponse, mais je pense que quand je suis venue pour la première fois en France m'installer, ce qui m'a frappée, justement, c'était la culture de la radio et les grains de voix. Et la voix, justement, comme vous avez dit, la voix fragile, la voix presque crue, et c'est la présence de voix physique qui m'ont vraiment, vraiment frappé. Et bien sûr, la radio existe. Et quand j'étais jeune, par exemple, Luigi Sakamoto faisait une émission très tard dans la nuit et qu'on pouvait envoyer les cassettes de la musique qu'on a composée nous-mêmes. Bon, bien sûr, ce genre de choses existait. Mais par rapport, justement, comme vous avez dit, à la présence de voix synthétisées, cette présence de voix fragile est moins moins visible, mais moins présente.
Et puis il y a la dernière phrase, de sa vie restera une onde. Ça, c'est la dernière phrase du livre, une sorte de signature du livre, de sa vie restera une onde. C'est quasiment l'immortalité, alors, l'onde pour la voix.
Je pense non seulement les voix enregistrées, mais je voudrais croire, ça c'est dans l'ordre de croyance, mais les voix non enregistrées peut-être restent dans le monde. Et que non seulement, bien sûr, comme ce livre était quelque chose de personnel, donc c'est pour ça que sa vie restera une onde, mais de notre vie restera une onde, et de votre vie, de ma vie, restera une onde.
Et c'est ainsi, les amis, que se termine Supersonic pour ce soir. La voix sombre de Ryoko Sekiguchi, paru chez POL, une histoire de la modernité sonore de Jonathan Stern, notre invité de la première partie. C'est à La Découverte, collection La Rue Musicale avec la Philharmonie de Paris. Pour en savoir plus, il faut aller sur franceculture.fr, à la page de Supersonic, où vous pouvez commenter, questionner, réécouter et podcaster.
Petite annonce avant de terminer. Hier a commencé le temps fort du début de saison du nouveau théâtre de Montreuil, à Montreuil donc à côté de Paris. Ça s'appelle Mesure pour mesure et ça rassemble toute une série de spectacles qui marient théâtre, son et musique. Et ce jusqu'au 17 décembre. Vous retrouverez notamment Il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières, du compositeur et metteur en scène Benjamin Dupé qui adapte la Pascal Quignard. Et puis aussi Adichats Adieu du chanteur, acteur, danseur Jonathan Capdevielle, un autoportrait en chanteur pop. Donc en quelques mots, voilà, c'est ça, Mesure pour mesure au théâtre, nouveau théâtre de Montreuil. Supersonic, c'est Inès De Brune à la préparation et à la coordination, Véronique Lamandour à la réalisation et ce soir au son, Philippe Bredin. Dans un instant, les nuits chaudes de France Culture. Prenez bien soin de vous et à samedi prochain.